parle parce que tu parles. Non, mais chaque... on va vous expliquer ce que c'est.
Radio Campus 88.3.
C'est quelque chose de vraiment très bizarre. Calmez-vous les mecs parce que...
Non mais ça fait rien du tout. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
Dans les studios de Radio Campus Orléans, c'est parti.
Jamais ça, t'entends ? Non, c'est jamais ça !
Mon nom, ça va te fouiller, hein ?
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la purge au palais de la sécurité.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Soyez les bienvenus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est à bâton rompu qui démarre. Magazine d'info tous les mardis à 19h. Ce mardi, nous parlons longuement de la colère des parents d'élèves des écoles publiques d'Orléans, mécontents d'un nouveau règlement des services périscolaires, voté en conseil municipal en mai dernier et qui prévoit une pénalité de 5 euros pour chaque enfant absent, sans justificatif, à la cantine et à la garderie. Une mesure adoptée, je vous disais, donc en conseil municipal et qui a déclenché des protestations de parents regroupés désormais dans un collectif. Une pétition a été lancée, 1107 signataires à ce jour. Des parents d'élèves qui n'ont jamais été consultés, ni reçus en mairie avant ce vote. Nous en parlons dans l'émission avec Xavier Girard et Fabien Barras, parents d'élèves engagés dans le collectif, et avec Mourad Guichard dans sa chronique qui ouvre généralement cette émission. C'est dans une poignée de minutes. Avec moi en studio, Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Il y a également Steven pour une chronique.
Bonsoir, bonsoir Hassan.
Qui portera sur quoi ce soir ?
Alors ce soir, on va parler ascenseur social, méritocratie et minorité visible.
C'est vrai. La semaine prochaine, on avait prévu aujourd'hui de parler de la rentrée universitaire. Et donc, tu as prévu cette chronique. Mais ça sera la semaine prochaine finalement. Mais en tout cas, on écoutera avec plaisir ta chronique. Rama est revenu nous voir.
Bonsoir Hassan et bonsoir à tous nos auditeurs.
C'est la preuve que ça t'a plu donc.
Oui.
T'as une chronique ?
Non, moi, pas pour le moment.
Pas pour le moment, hein. Ça va venir. À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci de nous accompagner.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Mourad Guichard au téléphone avec nous pour sa traditionnelle chronique de début d'émission. Et cette émission, tu le sais, nous parlons beaucoup de cette fronde des parents d'élèves d'Orléans, des écoles publiques d'Orléans, contre la mairie qui a décidé de pénaliser chaque absence d'enfant à la cantine et au périscolaire. Un conseil municipal avait lieu hier. Tu y étais ?
Oui, c'était la première fois que je retournais, d'ailleurs, au conseil municipal. Ça faisait, je crois que depuis la défaite de Jeanne d'Arc, et du fameux documentaire, je crois que je n'avais pas remis les pieds, ce qui m'a permis de reprendre un peu certains contacts. J'y ai revu le célèbre adjoint victime d'un terrible hacker du côté de Toury, dont l'affaire évidemment n'avance pas et n'avancera pas, puisque je crois que...
Ah bon, ça n'avance pas ça du tout passe.
Non, je ne pense pas que ça avancera, enfin ça n'aboutira pas, puisque pour que ça aboutisse, pardon, il faut-il encore qu'il y ait un hacker de son fameux compte Twitter, où il avait posté des propos racistes, oui, islamophobes et visant précisément Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et voilà, et donc il a toujours et continue de m'accuser très, très ouvertement d'être ce fameux hacker. Et donc voilà, je réfléchis à si je continue à le laisser déblatérer sur mon compte ou si j'envisage quelque chose d'autre, parce que ouais, ça devient un petit peu problématique.
Justement, parce que toi, tu peux faire une action, parce que l'accusation était là, elle a été écrite, elle était visible par toutes et tous.
Oui, mais justement, il continue de propager auprès d'autres élus, notamment, le fait que je serais le hacker. Il n'y croit même pas lui-même, hein. Mais il y a ce côté arrogant. Il avait même mobilisé une employée, la pauvre, elle n'avait rien demandé à personne, il l'avait mobilisé en disant, un peu comme Nadine Morano, je ne suis pas islamophobe, regardez, j'ai moi-même une agent, parce qu'en plus il est sa supérieure, une agent de religion musulmane supposée. J'avais trouvé le procédé absolument dégueulasse.
Splendide.
Mais c'est ainsi, voilà.
Splendide.
Alors donc oui.
Oui, sur.
Donc, comme tu disais, donc, oui, effectivement, ce qui a occupé et ce qui a fait qu'il y avait une participation très importante hier au conseil municipal, c'est évidemment cette histoire de règlement périscolaire et des cantines, mmh, avec donc une modification. Alors, il y a eu des rebondissements au cours de la soirée parce que les parents sont très mobilisés, mmh, d'une part, et d'autre. Mais je crois qu'on va entendre un son juste après.
Oui, bah, absolument. Ils sont réunis, voilà. Ils sont réunis, et je vais certainement voir en direct Fabien Barras, qui est un des parents d'élèves très actifs, que je vais voir en direct là. Et en fin d'émission, on aura Xavier Girard, que j'ai eu en interview. Voilà, absolument.
Un ancien de la grande maison Radio Campus, d'ailleurs.
Absolument.
Je vais les laisser eux s'expliquer simplement pour analyser un peu ce qui s'est passé hier soir. Donc là, l'opposition des deux bords est montée au créneau. Il y a eu un espèce de jeu, puisque c'est passé de 15 euros de pénalité à 5 euros. Mmh. Et là, les 5 euros sont un peu flottants, du coup. Mmh. Le maire a employé une formule qui veut dire qu'on vote quand même on vote cette fameuse pénalité, mais on va l'appliquer. Alors, je reprends mes notes. Voilà, avec souplesse et indulgence.
Oui.
Ce qui signifie que c'est vraiment, a priori, pour les parents qui vraiment abuseraient et de manière répétée, ne préviendraient pas les établissements scolaires que leur enfant est malade. Je rappelle que le Conseil de l'Ordre des médecins a rappelé qu'ils n'étaient pas là pour fournir... ils sont saturés, on est dans un désert médical. Ils sont pas là pour, en plus, fournir des certificats médicaux dès qu'un enfant a un peu de fièvre, des vomissements ou se sent pas bien. C'est pas possible. Donc le principe, si j'ai bien compris, c'est que maintenant, il faut prévenir systématiquement dès le matin pour... dire que son enfant ne sera pas présent à la cantine alors qu'il a été inscrit, par exemple, ou au périscolaire, et que, voilà, visiblement, ils seront indulgents. Mais je pense, d'après ce que j'ai entendu des parents hier soir qui se sont retrouvés en petit groupe à la sortie, je pense que ça n'est pas ni clair, ni suffisant, mais je laisserai évidemment Fabien Barras répondre plus précisément. Le sentiment qui ressort de tout ça, c'est que c'est une forte impression. Alors, tous les parents que j'ai rencontrés m'ont tous dit la même chose de manière non concertée, à savoir qu'ils estiment qu'avec Christelle de Filippi, qui est l'ancienne adjointe en charge des affaires scolaires, ça ne se serait pas passé comme ça. Ben, qu'il y aurait eu une concertation en amont, alors que là, on part pour une concertation dans les prochaines semaines, alors que la délibération est passée, donc c'est complètement illusoire. Et je pense... ça n'est pas, je le dis sans aucune animosité, je pense que l'actuelle adjointe en charge des affaires scolaires, je pense qu'elle est un peu, un peu dépassée par les événements. Je pense que pour des affaires courantes, je pense qu'elle est tout à fait légitime et à sa place. Je pense qu'à partir du moment où il y a une crise comme celle-ci, une fronde à gérer, je pense qu'elle est complètement dépassée. Et sa conception, alors peut-être également que sa conception, et c'est ce que me faisaient observer des gens qui ont eu affaire à elle, peut-être que sa conception du service public n'est pas exactement celle qu'attendent les parents, et sans doute des choses humainement que sont la concertation, l'écoute, ce sont pas des choses qui s'apprennent. Soit on est capable de le faire, soit on n'est pas capable de le faire. Et là, les parents, je pense qu'ils sont aussi remontés parce qu'ils sentent en face d'eux, à minima, un mur et dans le pire des cas, une espèce de une espèce d'arrogance. C'est eux qui me le disent, hein. C'est pas moi qui me permettrait de juger. Donc je pense qu'il y a un problème. Il faut savoir mettre, comme disait Jacques Duclos, il faut savoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et pour prendre notre cas, Hassan, un bon journaliste, comme tu le sais, ne fait pas forcément un bon rédacteur en chef. Absolument. Sauf qu'une fois que les personnes sont nommées, c'est difficile de se dédire et de les faire redescendre. Voilà, on va voir dans les prochains mois. J'ai senti hier une adjointe au maire, je ne la cite pas volontairement, hein. C'est pas ad hominem. J'ai senti une adjointe au maire vraiment dépassée par le dossier. Et d'ailleurs, à la fin du conseil municipal, qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de la ville, on voit très clairement qu'après un petit jeu de bad cop, good cop, notamment, alors je pense à Charles-Éric Le Ménihan et Florent Montillo qui sont montés au créneau en disant que c'était nécessaire, que stop au gaspillage alimentaire, alors ça représente vraiment deux et quelques repas, je crois, par école et par jour. Donc c'est pas ça, c'est pas la lutte contre le gaspillage, contrairement à ce que peuvent raconter certains confrères qui se sont un peu plantés sur ce dossier. Ce n'est évidemment pas le cœur, ce n'est pas le gaspillage alimentaire, ça c'est un prétexte. Il y a quelque chose d'autre derrière qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il va falloir poser sur la table et que j'ignore pour l'instant à ce stade-là. Mais je crois que les prochaines semaines vont être décisives pour voir si l'ouverture d'une vraie discussion avec évidemment la discussion ça ne suffit pas, avec des conséquences derrière, va suffire ou pas à calmer la fronde des parents.
Et cette adjointe dont tu parles, c'est Madame Régine Bréant, hein. Voilà.
C'est ça. Non, je ne l'ai pas cité exprès pour ne pas...
Ah, tu voulais pas.
C'est pas... Non, mais c'est pas grave. C'est pas, je te laisse la citer, il n'y a aucun problème. Simplement, je ne veux pas en faire un cas perso.
Bien sûr.
Je veux juste te dire que après le jeu de ping-pong, excusez-moi, du coup, j'ai loupé mon fil. Oui. Le jeu de ping-pong donc, et la montée au créneau de Montillo et de Le Ménihan, Serge Gouard est apparu. Il a repris la main, il est apparu comme le good cop, comme celui qui allait calmer le jeu, il a fait deux minutes de suspension de séance de façon à consulter, notamment pour des raisons juridiques, savoir si on pouvait assouplir la mesure et ainsi de suite, donc il est passé pour le gentil, et on a très bien vu que c'était lui qui menait la barque et pas du tout l'adjointe pour le coup. Et donc voilà, je pense qu'il y a un léger problème de gouvernance, peut-être un problème de casting, qu'il faudra peut-être revoir, mais ça ne m'appartient pas bien sûr, mais qu'il faudra peut-être revoir dans les prochains mois.
Évidemment. Je n'étais pas au conseil municipal, mais j'ai pu regarder en direct ce qui se passait. Serge Gouard a pris la parole à un moment. C'est une question également que j'ai posée à Xavier Girard tout à l'heure, qu'on entendra dans l'émission, qui disait, évidemment, ce n'est pas tous les parents. Il y a une petite minorité qui emmerde les autres. On les connaît. Est-ce que ça...
Oui, c'est vrai. Alors,
mais c'est terrible, c'est terrible, non ?
C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on applique la punition collective pour justement ce que disent eux. Alors, je veux bien les croire, quelques parents. Donc, on fait d'une exception la règle naturelle. C'est-à-dire qu'on va taxer à mort des parents qui, alors par exemple, la maman est infirmière, elle a son emploi du temps au dernier moment. Parce que c'est 5 jours, hein, il faut prévenir 5 jours à l'avance.
Oui, c'est ça.
Donc elle a son emploi du temps au dernier moment. Ou les femmes de militaires, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a des gens qui travaillent en intérim, qui n'ont pas forcément. Il y a des gens qui font les 3-8. Alors les 3-8 encore, on peut deviner, mais il y a des gens qui font des remplacements au pied levé. Et cela, au nom des quelques familles qui abuseraient du système, cela, on va les pénaliser à coût de 5 euros à chaque fois. C'est pas possible. Je veux dire, c'est vraiment. La double, voire la triple peine si ton enfant est malade en plus de ça. Donc humainement, c'est pas entendable. Et là, on sort du champ du service public. Et moi, je poserai la question de savoir où vont d'ailleurs ces fameux 5 euros. Parce que si on arrive à tracer les 5 euros et savoir si cet argent public, donc la mairie sera obligée de répondre puisque c'est de l'argent public, savoir où va cet argent et peut-être comprendre pourquoi ils tiennent à ce point-là à maintenir ces sanctions complètement ridicules au regard du nombre de repas, des fameux repas là que ça concerne et qui sont entre guillemets gâchés puisqu'ils pourraient très bien resservir. J'ai entendu parler notamment d'un cadre associatif qui œuvre dans l'humanitaire, qui serait tout à fait disposé, y compris techniquement, à récupérer les fameux repas qui ne seraient pas consommés. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive dans une collectivité, on ne pourra jamais éviter d'avoir un nombre de quelques repas par école qui ne soit pas consommé, quoi qu'on fasse. Et ça, il va falloir que peut-être l'adjointe et le maire l'entendent, en fait. Ouais.
Deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, les sénatoriales, c'était dimanche dernier. Dans le Loiret, il y a un statu quo sur les élus, la droite garde deux sièges, réélection de Hugues Saury et élection de Pauline Martin, maire de Beaugency. Oui, c'est ça, Beaugency.
Pas du tout. C'est Main-sur-Loire.
C'est la
ville voisine.
Absolument. Et à gauche, Christophe Chailloux qui est élu, succédant à Jean-Pierre Sueur. Quelle analyse tu en fais ?
Alors, pour moi, effectivement, c'est vraiment le statu quo. Il y a eu des tombereaux d'éloges concernant le mandat de Jean-Pierre Sueur. Et honnêtement, sans en faire des caisses, je pense que Jean-Pierre Sueur a vraiment contribué à non pas à redorer, à redorer le travail parlementaire sénatorial, parce qu'il souffre, comme tout le monde le sait, il souffre d'une image un peu de ventripotent. Qui s'endorment après le déjeuner et qui sont plutôt réactionnaires. Il a notamment avec les travaux, je pense à l'affaire Benalla, permis de dépoussiérer et on s'est retrouvé, y compris des gens qui ne sont pas intéressés forcément aux choses politiques, à se retrouver devant le public Sénat, qui a priori, je dis bien a priori, n'est pas la chaîne la plus sexy du monde. Il a, alors que maintenant, dès qu'il y a un débat sénatorial, notamment, je pense à la question des retraites, spontanément, on est quelques-uns à aller devant notre poste de télévision pour aller observer les travaux parlementaires parce qu'on sait qu'il y a du sérieux, que ce qui n'est parfois pas fait à l'Assemblée nationale va être fait au Sénat. Et voilà, je le redis, donc il a fait partie, Jean-Pierre Sueur, de ces personnalités qui ont dépoussiéré l'image du travail sénatorial. Et donc ça, c'est plutôt remarquable, mais tout comme je pense à des gens comme Éric Bocquet dans le Nord qui fait un travail absolument extraordinaire sur l'évasion fiscale. Alors après, dans le Loiret, le Loiret, j'ai envie de dire, reste le Loiret, c'est-à-dire que là, on a donc Pauline Martin, qui est la présidente de l'Association des maires du Loiret, qui est une femme de centre-droit. On a un acteur connu, Christophe Chailloux, alors qui pour le coup est dans la vie politique depuis, je crois, au moins 25 ans.
Depuis que je le connais, en tout cas, moi. Depuis que je le connais, en tout cas, il est en politique. Effectivement,
voilà,
ça va faire ça.
Je vais pas parler de personnages d'appareil, mais enfin, on n'oublie quand même pas qu'il a co-gouverné, il a cru co-gouverner la métropole avec Serge Grouard, lui qui se dit un homme de gauche. Donc voilà, on est vraiment là pour le coup dans la gauche dite de province, c'est-à-dire que on est dans le consensus. Je pense pas qu'il va faire des choses extraordinaires. Il a pas pour habitude de secouer le cocotier, donc je pense que effectivement là pour le coup, avec les clichés que ça charrie, le poste de sénateur lui va plutôt pas mal. Hugues Saury, je suis absolument infichu. Je te pose la question, Hassan. Je suis absolument infichu de citer un travail de fond parlementaire d'Hugues Saury. Donc je n'ai pas plus d'informations sur son travail. Je ne sais pas. Je ne suis incapable de citer quelque chose. Un projet de loi, quelque chose qui l'est porté au cours de ce dernier mandat. Donc, wait and see, peut-être que ça va être la révélation pour nous, ce nouveau mandat, mais je n'ai pas plus d'informations que ça concernant ce travail parlementaire. Et ça, je le redis, ça ressemble bien à la vie politique dans le Loiret, c'est-à-dire que c'est très consensuel et un petit peu plat, pour être très précis.
La campagne pour les sénatoriales, le canard enchaîné nous a gratifié d'un petit papier sur cette campagne. Je voulais aussi en parler avec toi, avec une invitation faite lors du Festival de Loire sur un bateau pour rencontrer des gens. Alors, c'était tu l'as rappelé tout à l'heure, Pauline Martin était elle préside l'Association des maires du Loiret.
Oui, et l'invitation absolument. Alors, je crois qu'ils ont. Alors, c'était pas sur un bateau, c'était en fait le siège de l'AML, l'Association des maires du Loiret, se trouve sur les quais de Loire. D'accord. Et il se trouve que ce week-end, c'était le Festival de Loire. Donc, ils invitaient le dimanche à une espèce de pause rafraîchissante et technique, c'était le terme employé, dans les locaux de l'AML pour tous les élus, donc ce qu'on appelle les grands électeurs qui venaient voter. Sauf que ce courrier a été envoyé donc à tous les adhérents, Certains adhérents s'en sont offusqués du fait que ça tombait le jour du scrutin et que la présidente était candidate. Et alors je l'ai vu, il se trouve que je l'ai vu en direct. Elle était très énervée que ça puisse être interprété comme ça. J'ai eu également un cadre de l'association. Honnêtement, très honnêtement, alors ils ont suspendu du coup suite au papier de Canard Enchaîné, ils ont suspendu cette initiative. Je pense vraiment, alors ils n'y voyaient pas forcément à mal, mais c'était extrêmement à minima maladroit, voire un peu plus de proposer un coup de gorgeon aux adhérents. Et en plus, le courrier commençait comme ça par le jour des sénatoriales. Vous savez très bien que le week-end. Durant un scrutin, on est tenu évidemment à la neutralité la plus totale, la plus absolue, et que c'est pas en offrant un coup de gorgeon payé par l'association dont la candidate est maire, est présidente. Je crois pas que ça rentre dans une logique de neutralité. Mais voilà, je crois que c'est beaucoup plus, à mon avis, maladroit que ça n'était intentionnel et calculé.
Rappelons quand même que les votants pour les sénateurs là sont les grands électeurs, donc des élus, des maires ou des élus.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est
absolument,
ça. C'est ça
absolument. Et des élus choisis par les conseils municipaux. Voilà.
Mourad, merci de ta participation.
Merci infiniment.
À bâtons rompus, on se voit, on se rencontre, on se parle la semaine prochaine, mardi, à 19h.
Avec grand plaisir.
À bâtons rompus, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis, de 19h à 20h.
Tu voulais réagir sur ce qu'a dit Mourad, Victor ?
Oui, alors effectivement, moi je trouve ça absolument dingue, cette histoire de 5 jours, ouais. De prévenir 5 jours à l'avance que son gamin sera malade.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est juste complètement stupide. Enfin, je comprends pas, quoi. Parce qu'effectivement, 5 jours à l'avance, on peut pas savoir si son gamin sera malade et ratera la cantine ou ce genre de choses.
Ah non, mais ça, nous on le sait, mais il y a des élus ville d'Orléans qui...
Et en plus, ça m'a rappelé une petite histoire que j'ai eue pendant mes études, lors d'un cours de sociologie des organisations. On a étudié le cas d'une école israélienne qui, en fait, en avait marre que les parents viennent chercher en retard leurs enfants à l'école et qui, du coup, en fait, a décidé de mettre en place une amende pour les parents, en fait, qui étaient en retard. Dont le but était évident que, comme il y a une amende, du coup, il y aura moins de gens qui le feront. Et en fait, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une amende, en fait, les gens se sont dit, très bien, je paye pour que mon gamin soit gardé une heure par l'école. Ça coûte moins cher que qu'une garde de riz ou ce genre de choses. Et du coup, au final, ils ont dû faire machine arrière parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, le fait de mettre une sanction financière, ça n'avait pas du tout stigmatisé un comportement. Au contraire, ça l'avait normalisé. Donc, ça m'a fait penser à ce truc-là. Alors, je ne sais pas si jamais ce sera la même chose, mais il faut se méfier du coup des sanctions financières parce que ça ne marche pas toujours dans le sens où on l'entend.
Mais en tout cas, les parents d'élèves, je disais, regroupés en collectif, on aura tout, dans quelques minutes Fabien Barras, ils sont réunis là pour voir la suite du mouvement. Ils étaient réunis devant la mairie hier pour rencontrer des élus qui passaient, pour leur dire de ne pas voter. Ils n'ont pas envie, on entendra Xavier Girard le dire, ils veulent que cette pénalité soit enlevée. Ça existe, cette pénalité existe dans certaines villes. Le maire d'Orléans parle de 200 repas par jour qui sont jetés et c'est sa façon de participer à... au non-réchauffement climatique. C'est ce qu'il faut se dire. Un peu de musique en attendant. I have been around the world. I am searching for the one who is right for me. I have come to understand if I didn't look for me, I would have never been able to see you. Cause I've been begging for the love of the world. Would have never been at ease. The world, if I lost it's my not soul. So bad and full. It never would have worked for me. It's not so bad and full. It never would have worked for me. It's not deeper and deeper.
Oui, je t'entends.
And I find myself tied up. It's not so bad and full. Only you will work for me.
10 minutes. Ah oui, 2 minutes. On est réunis là, on est réunis, on est en pleine réunion. Ouais, voilà. Ah, tu peux... I blame the people for not loving me enough, but I didn't love myself at all. You see, we tend to judge a people with a different point of view, thinking that they should grow up. But it's sweet, it's got a job to do, and I got
some more work to do. And the music in it all is that everything's okay, because I had to fight.
If I go back and forth, it never would have worked for me. If I go back and forth, it never would have worked for me. If I go deeper and deeper, and I find myself tied up. If I go back and forth.
Je suis raide dingue de la voix si soul de cette chanteuse. Elle s'appelle Neka, elle est métisse, elle a des ascendances Nigeria et Allemagne je crois. Cet album déjà, les premiers étaient très reggae. Et le prochain est annoncé avec beaucoup de choses très soul, dit-elle. Il est annoncé donc en ce moment, elle a sorti sur les réseaux sociaux en tout cas, ce super Back and Forth, c'est le titre. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Et nous sommes avec Fabien Barras. Bonsoir Fabien.
Salut à tous, chers amis, chers camarades, bien bonjour.
Bien bonjour camarades. Bah, désolé hein, de te sortir d'une réunion, vous êtes réunis en ce moment, hein, les parents d'élèves en colère, après le conseil municipal d'hier, qui ne vous a pas satisfait du coup, puisque les pénalités de 5 euros n'ont pas été annulées comme vous le souhaitiez.
Oui, tout à fait. On n'est pas entièrement satisfait. Parce que il n'y a pas que l'histoire des pénalités. Il y a aussi l'histoire du délai de 5 jours de prévenance, bon, qui nous semble comment bien élevé, bien fort. Et bien difficile à mettre en place pour les familles, notamment les familles dont les parents travaillent dans des services, on va dire, d'urgence. On a une maman aide-soignante dans le collectif là, Audrey, qui a lancé la pétition, qui est aide-soignante, et bon, on connaît la situation de l'hôpital public, hein.
Ouais,
donc 5 jours c'est impossible. Je pense aussi aux préparateurs de commandes, Amazon par exemple, quand on dit faut être là demain à 8h le jour la veille à 17h, bah c'est compliqué de s'organiser quoi. Donc, voilà.
Mais alors je pose la question à Xavier Girard hein, qu'on entendra à la fin de l'émission, mais enfin voilà pour savoir est-ce que toi tu le dis clairement que cette mesure c'est salaud de pauvre, allez vous faire foutre quoi. Ici on dit les choses.
Alors, c'est pas le registre oui. De vocabulaire de ces gens-là.
Oui, bien sûr.
Mais il y a quand même un peu de ça, ouais. Pour moi, il y a quand même une forme de mépris de classe, ouais. de regarder ces salauds de pauvres qui nous coûtent entre 200 et 400 000 euros. Parce qu'en fait, on sait pas très bien combien ça coûte. On sait pas très bien combien de repas sont jetés exactement. Et en fait, c'est
il
pas.
200, il dit 200 repas par jour. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
Alors 200 repas par jour, sachant qu'il y a 62 ou 63 écoles.
Oui, c'est ça.
Dans Orléans, on arrive très facilement à une moyenne de 2,33 repas jetés par école. Hey. Je mets au défi quiconque dans une école maternelle, de ne pas me trouver un enfant par jour, de ne pas me trouver un établissement où il y aurait pas, où il y aurait un enfant qui ne serait pas absent par jour. Mm-hmm. J'ai pas dit les choses très clairement.
Oui, c'est
pour moi en maternelle. Il y a toujours un enfant qui est absent.
Oui.
Voilà. Donc le zéro, le gâchis zéro, ça n'existe pas. Oui. On n'est pas. En fait, on est dans une logique comptable et on prend pas en compte l'humain. Voilà, comme d'habitude, moi, j'ai envie de dire.
Alors, il y a aussi cette histoire de s'inscrire, enfin, ou de dire que son enfant ne viendra pas, mais sur un site, je crois, d'information. Et vous relevez qu'il y a des parents, notamment immigrés, étrangers, qui ont des problèmes avec le français et aussi avec ce type d'outils. Et ça n'a pas été résolu, ça.
Enfin, ça. Alors, je mettrai même pas, je mettrai complètement de côté le paramètre linguistique de tous les parents, parce qu'en fait, ce portail, il tient pas la charge. Ouais. Alors, c'est quand même un peu dommage, parce que le test de charge de plateforme, de site internet, c'est un peu ce que je fais.
Mais comment c'est possible? Il craque ce.
En fait, vous prenez une planche. La planche, elle est faite pour supporter. Elle est faite pour supporter 20 kilos. J'ai une bêtise, elle est faite pour supporter 20 kilos. Vous mettez 22 kilos. Et qu'est-ce qui se passe? La planche, elle ne craque pas, mais la planche, elle gondole. Et là, vous êtes sur une planche qui gondole.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Ouais. Et donc, moi, j'ai essayé cet après-midi. Je voulais. Je dois inscrire mon enfant pour du périscolaire la semaine prochaine. Je l'ai fait cet après-midi, j'ai calculé. En fait, entre le moment où on veut se connecter, où on clique sur « se connecter » et le moment où le portail famille apparaît, okay, pour faire simple, okay, il y a, j'ai compté, 45 secondes.
Okay. Yeah. Ben oui, on n'a pas...
Voilà.
On a pas,
oui. Donc, je suis sur une... J'ai une configuration informatique qui est optimale. Je ne suis pas sur la 3G, je ne suis pas sur un matériel informatique ancien. Donc, je n'imagine même pas les familles qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Je n'imagine même pas la galère que ça doit être. Et si tu me permets, on se tutoie à ça.
Oui, bien sûr.
On ne va pas faire semblant. Pas ici. Pour moi, il y a un risque pour les personnels de la mairie d'Orléans. Que je salue très sincèrement, et je pense que les parents seront d'accord, les parents qui écoutent seront d'accord avec moi pour saluer le travail qui est fait en ce moment par les personnels de la direction de l'éducation.
Ouais.
Pas les personnels de la direction en elle-même, les personnels qui sont en dessous. Mmh. J'entends par là les responsables du périscolaire dans les écoles. Mmh. J'entends par là les managers, donc ceux qui sont juste au-dessus de ces référents périscolaires dans les écoles. Oui. Les personnes qui sont à l'accueil téléphonique de la mairie, quand on fait le numéro de téléphone de la mairie, les dames qui nous répondent au téléphone, et même les personnes de la direction de l'éducation qui sont chargées de répondre au téléphone. Je salue ces personnes très chaleureusement ce soir et je leur apporte tout mon soutien parce que je sais qu'en ce moment, elles ont des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées. Voilà, il faut le savoir.
Il faut le dire, effectivement.
Il faut le dire. Je te donne juste un exemple, Hassan. Je ne sais pas si je l'avais dit clairement la dernière fois. Le vendredi 8 septembre, on était en alerte canicule à partir de midi. J'avais mon enfant qui était inscrit au périscolaire le soir. Et j'ai voulu appeler la direction de l'éducation pour savoir si... À cause de l'alerte canicule, je pouvais aller le chercher plus tôt pour décharger les équipes du périscolaire. Quand il fait 35 degrés, une chaleur comme il faisait, avoir, je sais pas, 50-60 gamins à gérer, c'est pas très agréable. Et donc, voilà, j'ai essayé d'appeler. J'ai mis deux heures et demie à essayer de joindre la direction de l'éducation. Il a fallu que je passe par le cabinet de Serge Grouard pour que le directeur de l'éducation me rappelle et me dise « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous êtes passé par le cabinet du maire. Ici, tout est calme, tout va bien. »
Ah oui, oui, oui.
Est-ce que vous vous rendez compte du niveau où on est?
Ça va, nous, le bureau est climatisé, monsieur. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier?
Oui, oui.
Alors, quel est l'état d'esprit là, des parents réunis aujourd'hui, là? Parce que le maire a annoncé quand même hier certaines choses. C'est une concertation, puisque vous n'aviez pas été reçu avant l'annonce au mois de mai, une concertation et refaire un conseil municipal d'ici janvier là-dessus. Quel est l'état d'esprit des parents qui sont avec toi?
Alors attends, Hassan, il n'a pas dit qu'on allait refaire un conseil municipal spécial.
Oui, qu'ils allaient en parler quand même. Non,
il a dit qu'on en reparlerait dans un conseil municipal à partir de janvier.
Oui, c'est ça.
Et comment? Il va y avoir une concertation. Il va y avoir une concertation des observations d'ici là. Donc nous, on est en train de s'organiser entre nous. On est en train de se réunir là entre nous pour voir quelle stratégie on adopte. On a bien entendu qu'il y avait l'annulation des 5 euros pour pour le périscolaire des matins et du soir, pour la garderie du matin et du soir. Parce que on en parle toujours de périscolaire, mais je pense que quand on parle de garderie, ça parle bien plus de garderie, de cantine, ça parle bien plus à tout le monde que le périscolaire. Donc pour la garderie du matin et du soir, on n'a pas les 5 euros. Par contre, on a toujours les 5 jours on a les 5 jours, jours de délai.
De délai, oui, absolument. Oui.
Voilà, et on a toujours, et on ne sait pas trop bien. On nous dit, voilà, vous avez 3 fois avant d'avoir l'amende, mais on ne sait pas trop si ça concerne la garderie. Hein, c'est pas clair. Voilà.
Donc la lutte continue, forcément, pour vous.
Pour nous, la lutte continue.
Elle s'arrêtera quand ils auront tout annulé.
Elle s'obtient. Alors, de toute façon, elle s'arrêtera quand on aura obtenu satisfaction, c'est-à-dire que. Quand on nous dit la situation d'avant elle est pas satisfaisante, non, elle est pas satisfaisante, mais pourquoi, comment se fait-il que des parents soient refusés des dispositifs de garderie, de centre de loisirs sur Orléans et soient acceptés sur la ville d'Olivet? J'ai une amie qui s'est arrivée. La mairie d'Orléans a refusé son inscription au centre de loisirs cet été. Elle est arrivée à la ville d'Orléans. On lui a dit, madame, il n'y a pas de problème, par contre, vous paierez le tarif hors commune. Elle dit, il n'y a pas de souci, je paierai le tarif hors commune. De toute façon, le tarif, je crois que c'était à peu près équivalent à ce qu'elle payait sur Orléans. Donc, l'un dans l'autre, bon, c'était pour elle, c'était. Mais elle avait une solution de garde. Là encore, pour moi, excuse-moi, je suis long, mais là encore, il y a un souci. C'est le recrutement des agents. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à payer à recruter les agents?
C'est ça. Absolument.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de paye? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de rémunération?
C'est un vrai souci, en tout cas. En tout cas, nous allons continuer, nous, en parler ici, vraiment, parce que c'est une. Ouais. Il me semble que c'est une question qui dépasse le strict cadre d'Orléans. C'est un combat à mener, même au niveau national. Et on continuera. Hein, je reste à côté, pas loin de ton téléphone, on te rappellera certainement pour.
Il n'y a pas de problème.
Pour parler.
Il n'y a pas de problème. Merci, maire. Merci à vous de m'accueillir, de nous accueillir, puis de nous donner la parole régulièrement. Je tiens quand même à dire qu'on n'a toujours pas de chiffres précis sur ce fameux gaspillage. Hein, je rappelle toujours 200 repas jetés par jour, c'est 2,33 repas jetés par école. Et on parle pas de salariés, on parle pas de... même d'ados, de lycéens qui auraient des défenses immunitaires à toute épreuve, ni de salariés dans une cantine d'entreprise. On parle d'enfants qui ont entre 3 et 11 ans, avec la sensibilité au rhume. On est dans la période là, de transition. Moi, j'étais pas très bien encore ces derniers jours. Un enfant qui fait un rhume... une bronchite, une rhinite, ça peut monter facile à 38, 39 de fièvre. Ouais.
Merci à toi, Fabien. Voilà. Fabien Barras.
Merci à toi. Merci à Radio Campus.
Ouais. Parents d'élèves en colère.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Nous allons maintenant parler d'ascenseur social, monsieur Steven.
Exactement.
C'est quoi ?
On est bon.
Ouais. Bon. Je rappelle, la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale sur la rentrée scolaire, une interview du président de l'Université d'Orléans. Je voulais, avant de te laisser la parole, cette semaine, on a appris que Orléans était la 7e classée en France, 7e ville, où il fait bon vivre, étudier en tout cas.
Encore.
Hein ? C'est quoi ?
Ou... Non, bah, c'est un peu les marronniers à chaque fois.
Eh bien, nous sommes d'accord. Alors, il y a quelques années, j'avais réussi à appeler ma collègue de l'étudiant FR qui fait ce classement tout le temps, qui m'avait expliqué les critères sur lesquels elle travaillait. Et depuis, je n'ose même plus les appeler parce qu'il y a un peu d'arnaque sur cette affaire. Mais en tout cas, aller sur la plage de l'étudiant FR, il y a tous les critères qui sont expliqués. Mais vous ferez vous-même votre opinion. Alors là, on va parler
d'ascenseur social.
Et ben, c'est parti.
Donc on se lance, ok, c'est parti. Donc bonsoir auditrices, auditrons et auditeurs. Il n'y a pas longtemps, je me faisais une réflexion. Les ministres, ils sont vachement investis dans leur boulot. Hein. Pour preuve, Darmanin, chef de la police, qui a une enquête policière sur le dos. Bruno Le Maire, qui gère les finances, qui est accusé de financement illégal. Dupond-Moretti, gardien de la justice, qui passe devant les juges. Il n'y en a qu'un qui m'a déçu, c'est Gabriel Attal. Lui, il a juste fait une immersion de 3 jours dans un lycée. Ouais, c'est moins fun. Il aurait fait une immersion dans un lycéen, là j'aurais trouvé le truc un peu plus fun. Au moins, il a découvert un monde où il n'avait jamais posé les pieds. Si ça se trouve, un jour, on aura Sylvie Retailleau qui tentera l'immersion dans la précarité étudiante. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a invité les universitaires à contribuer à l'effort et à réduire la dette de l'État. Parce qu'il y a de l'argent à la fac, hein. Mais alors, la précarité étudiante, les installations vieillottes, tout ça des mensonges. Et il y a Macron, oui, encore lui, hein. Il a déclaré qu'il n'y a pas de problème de moyens dans les universités. Je vous jure, lui, je ne sais toujours pas pourquoi il parle. N'empêche, j'aimerais pas bosser pour lui. Hein.
Il est président de la République.
Ah, c'est ça. Non, mais, imagine-toi, t'arrives en conseil des ministres, tu fais « Hé les gars, j'ai raconté une super connerie, sûrement la meilleure de la semaine. » Et là, bim, Macron qui sort une connerie encore plus énorme. Et tu fais « Ah putain, j'aimerais tellement l'insulter, lui, dommage que ce soit celui qui me paye.
Enfin, » Ouais, c'est ça.
Seulement la partie que je déclare. Hein. Ouais. Après, il se casse dans son avion pour aller dire de la merde dans d'autres pays pendant que ça pète chez lui.
C'est ça.
Enfin bon. Universitaire, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, se tenait Campus en Fête.
Oui.
Une forme de bienvenue pour les nouvelles et nouveaux étudiants et un bon retour pour les autres. L'université, c'est quand même un endroit où les idées et les pensées fleurissent. J'espère que votre séjour à l'université d'Orléans, 7e ville, etc., hein, vous sera profitable. Et là, celles et ceux qui me connaissent sont en train de se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il est vachement positif, le boug !» Non, attendez, hein, l'université reste un espace de sociabilisation, un espace où différentes communautés se rencontrent, au grand désarroi de certains. Les minorités se retrouvent à l'université, souvent isolées, coupées de leur famille et donc de leur source de culture. Lorsqu'une famille étrangère ou issue des diasporas ou de l'immigration envoie un enfant à l'université, il y a l'espoir qu'il superforme. Et là, on en arrive à parler d'ascenseur social. Alors, ascenseur social, réalité ou grosse connerie créée par un système blanc bourgeois dans le but de criminaliser et stigmatiser les minorités ? Moi, perso, j'ai ma petite idée. Alors, l'ascenseur social, ça renvoie à l'idée d'intégration. Celui ou celle qui réussit, on dira d'elle ou de lui, qu'il ou elle s'est bien intégré. Ils parleront de sacrifices, diront que quand on veut, on peut.
Hein. C'est ça.
Et je mets une petite réserve concernant les femmes. Hein. Pour vous, mesdames, il reste le soupçon d'avoir usé de vos charmes pour en arriver là. Hein. Pour vous, ce sera double pression, parce que ça paraît inconcevable que vous puissiez juste être meilleur. Enfin, ouais. Penses-tu hein. L'université, c'est un espace où beaucoup d'étudiants sont poussés vers l'intégration, c'est-à-dire se rapprocher des personnes blanches, ouais. Se rapprocher de la blanchité. Avec l'université, le système blanc veut faire croire aux étudiants et étudiantes non blancs que le mythe de la minorité modèle existe. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des minorités statistiques qui superforment sur toutes les cases, que sont l'éducation, le revenu, l'emploi, la criminalité, cochent toutes les cases de l'intégration économique, sociale et culturelle qui indiquent que vous êtes de bons contributeurs à la société blanche. Ah, je précise aussi que superformer sur la criminalité, ça ne veut pas dire commettre plus de crimes. Hein. C'est dire que là où on admet l'erreur de jeunesse pour les Blancs, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça va ? Pas trop de pression pour vous ? Pousser dans la blanchité, c'est rejeter sa famille et ses origines. Ici, la famille forcément persécute. Hein. « Ah maman, pose cette spatule !» Désolé, c'est des traumas qui ressortent. Je n'ai parlé que des universitaires non blancs, mais les autres, rassurez-vous. Juste, je voudrais prendre 2 secondes pour savourer ce moment. Tu sais, quand tu dis les autres,
oui, oui.
On associe toujours les personnes racisées.
C'est
donc,
ça.
Inverser la tendance, ça fait du bien.
Bah oui.
Bon, attends, où j'en étais moi ? Ah oui, les autres donc. Pour vous sécuriser, il y aura toujours 1 ou 2 personnes qui vont écrire un livre sur leur réussite. Dedans, ils expliqueront qu'ils ont rejeté leurs origines pour être françaises ou français selon des critères fantasmés. un livre « Instruments de la méritocratie ».
Assimilation.
Exactement. Dans ce livre, ils expliqueront qu'ils ou elles ont gommé ce qui les rendait différents. Chirac, lui, parlait des odeurs et du bruit. Donc ces personnes mettront des costumes, du parfum européen, parleront calmement et gommeront tout accent. Sarkozy avait validé l'intégration asiatique en félicitant d'adopter le modèle d'intégration le plus républicain qui soit, le travail. Donc ces personnes vous expliqueront qu'elles ont énormément travaillé à la seule force du poignet. Hein, et ils se sont hissés dans l'ascenseur social un peu à la Indiana Jones surmontant les épreuves. Cette minorité modèle sera dépeinte comme une minorité discrète et heureuse. C'est pour cela que Sarkozy félicitait l'intégration asiatique. En France, on t'accepte quand tu es discret et heureux, c'est-à-dire que quand tu ne fais pas d'histoire et que tu ne demandes pas plus que ce qu'on te donne. Et cette minorité modèle, on l'utilise pour dire « Regardez eux, vous, vous ne faites pas d'efforts ». Sauf que la minorité modèle occulte les disparités et met une pression sur les communautés et les enfants. L'université est déjà un environnement stressant, mais les minorités modèles viennent ajouter un état de dépression et de mal-être chez les jeunes. Ces minorités modèles ne mentionne jamais le syndrome du ticket de deuxième classe. Tu vois, ces gens, ils arrivent à la moyenne. Et dans les fondements égalitariens français, c'est bien de payer son ticket comme tout le monde, mais si vous voyagez en première classe, là, ça dérange. L'intégration, c'est être un modèle, mais il ne faut pas cocher plus de cases que ce que l'on vous demande. À ce stade, vous commencez à déranger. Ce fameux plafond de verre dont on parle pour les femmes, ici, on pourrait dire que l'ascenseur social ne va pas jusqu'au dernier étage. Les minorités modèles veulent être aimées. Et ça, je le comprends, hein. on aime bien être aimé, on est content. Hein. Même moi, si on me dit « je t'aime bien », je ne vais pas dire « non, je vous emmerde et je rentre à ma maison ». Et en même temps, est-ce qu'on a envie de se rendre complice de propos qui rejettent d'autres sur des critères, en plus infondés ? A-t-on envie de s'intégrer à la société blanche ? Pour être passé par l'université, je vous le dis, c'est un lieu de rencontre, d'expérience, de création et de déconstruction. Donc, protégeons cet espace. Si le gouvernement cherche tant à les détruire, c'est que ça doit valoir le coup. Tu sais, rien que pour les emmerder, hein. Pour les emmerder, soyons bruyants, soyons odorants, soyons fainéants, mais soyons fiers. Cultivons ce que l'on nous reproche. Universitaires non blancs, la réussite n'est pas normée, et encore moins par des exceptions qui dépeignent une négation de leurs origines. Donc, aucune injonction. Kiffez, apprenez, testez ou détestez. Au final, l'université est une expérience, et non un ascenseur qui vous emmène au rez-de-chaussée de la blanchité. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi, encore superbe. Oui, tu l'applaudis, hein, du coup, on t'entend pas m'aider. Allez, sans transition, comme dirait l'autre, nous allons écouter Xavier Girard, un des porte-parole des parents et agacés, énervés par la décision des pénalités à la mairie. Je l'ai eu cet après-midi. Xavier a été pendant quelque temps directeur de responsable d'antenne à Radio Campus. Donc voilà, ne vous étonnez pas que l'on se tutoie. Xavier, tout de suite.
Absolument.
Allez, c'est parti. Interview avec Xavier Girard. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Bienvenue sur cette antenne que tu connais bien.
Oui.
Aujourd'hui, oui. Au titre de porte-parole des parents d'élèves d'école publique d'Orléans, en colère contre la mise en application d'un nouveau règlement des services périscolaires qui prévoit 5 euros de pénalité pour chaque enfant absent sans justificatif à la cantine et à la garderie. La mesure a été adoptée par vote au mois de mai dernier. Sans vous consulter, il me semble. Hein. Aucun parent d'élève n'avait été consulté.
Non, on a découvert la mesure après le vote, hein, et même très, très, très longtemps après le vote, puisque ce sont les derniers conseils d'école qui traditionnellement se réunissent à la fin du mois de juin qui ont évoqué cette mesure de manière extrêmement lapidaire. Et puis ensuite, un dépliant qui a été distribué à la veille de la sortie des classes pour les grandes vacances, qui évoquait ce point de manière, pareil, très très succincte, et qui a alerté certains parents, hein, puisque quand même c'était écrit noir sur blanc qu'il y allait avoir un système de pénalité de 5 euros par enfant et par jour. Et c'est à partir de là que les différentes associations de parents d'élèves d'Orléans se sont mobilisées. La mienne, c'est l'API Charles et Roger, c'est l'école Charles Pensé, et on a commencé à écrire à la mairie en leur expliquant que le système qu'ils s'apprêtaient à mettre en place, on était tout à fait en désaccord avec, et plus que sceptique sur la manière dont ils allaient traiter avec ce système les familles qui ne maîtrisent pas le français, les familles qui sont mal équipées du point de vue numérique ou qui ne sont pas aguerries au maniement de l'interface de la mairie, qu'on connaissait déjà puisqu'elle était déjà là. Depuis plusieurs mois,
et qui ne fonctionne pas bien.
Qu'elle était...
Là.
Voilà, et dont on savait qu'elle était à la fois peu ergonomique, dont on ne savait pas encore qu'elle était à ce point instable et dysfonctionnelle, mais on l'a découvert grâce au nouveau système à la rentrée, puisque les serveurs se sont retrouvés très très vite saturés juste avant la rentrée, ne permettant pas à chacun de faire ses inscriptions correctement, quand il n'y a pas carrément des bugs qui font que on peut soit on se retrouve avec deux inscriptions dans deux écoles différentes, soit on se retrouve avec l'interface qui ne veut pas qu'on clique ou qui clique à moitié. Enfin bref, c'est une usine à gaz technique et c'est une impréparation totale de la ville d'Orléans à un dispositif qui demande au contraire techniquement d'être extrêmement rodé et d'avoir une plateforme qui fonctionne.
Et peut-être même un bug politique, mais on y reviendra. Alors, une mobilisation s'est faite, moi, de mémoire de journaliste. J'ai pas souvenir de mobilisation comme ça de parents d'élèves. Hein. Toutes les associations se sont...
Ouais.
Voilà, il y a une pétition qui a été lancée, qui a plus de 1107, je crois, j'ai vu, là,
oui,
avant de rentrer en studio.
Aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Mais c'est... voilà, et même avec ça... Je veux dire, la mairie n'a pas bougé. Vous avez
non, non, absolument. En effet, c'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir la trajectoire de ce mouvement qui commence avec une maman des quartiers pavillonnaires de la Source, qui est sage-femme, qui est directement impactée par un délai de carence, parce que ça, c'est quelque chose d'important. En fait, on ne peut plus modifier son choix de réserver ou pas une place à la cantine ou à la garderie dans un délai de 5 jours avant le jour J. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez désinscrire votre enfant ou au contraire l'inscrire à la cantine ou à la garderie, par exemple le vendredi pour le mardi, ça n'est pas possible, même le jeudi. Ce qui veut dire que cette femme qui est sage-femme, qui prend des gardes, qui prend des remplacements de collègues de nuit, eh bien, elle est censée aller travailler et se prendre des pénalités forfaitaires en même temps, tout en honorant ses engagements professionnels. Et donc, elle démarre cette pétition qui recueille assez rapidement environ 500 signatures, je dirais au début de l'été. Et puis, à la rentrée, ce qui est intéressant, c'est que face aux réponses très laconiques de la ville d'Orléans, qui nous dit aux différentes associations qui font des courriers « Ne vous inquiétez pas, tout va pour le mieux, nous avons tout prévu, tout est parfait », eh bien, au moment où on reçoit cette réponse, on voit bien que rien ne fonctionne correctement, qu'il y a une proportion de parents d'élèves qui ne sont absolument pas au courant de la mesure, enfin qui est très importante, cette proportion. Et donc, on engage un mouvement de manière assez simple. Si je suis le porte-parole aujourd'hui, c'est parce que à ce moment-là, de manière assez simple, je me dis, ben, prenons contact. Alors, on fait des choses simples, on publie des messages sur les réseaux sociaux, les copains rebondissent, les listes de contacts se construisent, et puis on crée un fil WhatsApp, on échange et on décide de commencer à communiquer d'une même voix, parce que c'est ça le but de cette coordination, c'est de peser davantage dans le dialogue avec la mairie, et malgré tout, malgré les premières interpellations, eh bien, la situation ne change pas, c'est-à-dire qu'on a un rapport de force qui s'installe par le biais des médias locaux, par le biais des médias nationaux aussi, hein, puisqu'on est pas mal couvert à ce moment-là. Mais la mairie ne décide toujours pas d'accueillir, d'entendre ses parents d'élèves formés contents. Et jusqu'au vote du conseil municipal pour une révision du texte lundi dernier, personne ne nous a invités à venir échanger sur la situation, à venir témoigner des dysfonctionnements, des bugs et des difficultés d'un certain nombre de familles.
Mais j'ai écouté attentivement le conseil municipal, il y a eu un beau débat d'ailleurs, où le maire continue à dire qu'il y a du gaspillage, qu'il a chiffré évidemment, soi-disant, enfin, à un moment il dit, c'est pas tous les parents, il y a un groupe de parents qu'on connaît. Alors, vous êtes au courant, vous, de ça ou pas?
Alors, y a deux choses peut-être pour déconstruire un peu cette question du gaspillage. Bon, d'abord, il faut voir comment on présente les chiffres. Quand on dit 200 repas par jour qui ne sont pas servis à cause des absents, alors c'est peut-être une donnée réelle. En revanche, si on la rapporte au nombre d'écoles, ça fait une moyenne de 3,5 repas qui ne sont pas servis par jour dans les cantines d'Orléans. Donc déjà, quand on ramène ce chiffre à un pourcentage aussi d'élèves présents, hein, on est sur de l'ordre de 1 à 2% de repas qui ne sont pas servis pour cause d'absence imprévue. Donc il faut déjà remettre en contexte ce chiffre avancé. Alors, en valeur absolue, c'est sûr que si on multiplie ces 200 repas par le nombre d'écoles, par le nombre de jours de l'année, eh bien, ça fait des chiffres astronomiques. Donc ça, on ne le conteste pas. C'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que pour autant, on doit, à partir de ce constat, basculer dans un fonctionnement autoritaire qui dit vous n'êtes pas là, eh bien, on vous punit et on vous met à l'amende. Ça, nous sommes convaincus que non. Nous sommes convaincus qu'on est passé extrêmement vite d'un système probablement laxiste, le système précédent, à un système hyper punitif, sans aucune phase de pédagogie, sans aucune phase de dialogue, sans aucune phase d'étude non plus, d'autres solutions éventuellement possibles. La mairie continue de répéter que ces repas ne peuvent pas être exfiltrés via des filières caritatives, par exemple. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, quand tous ces repas ont été préparés dans une cuisine centrale et que, étant donné que les appels sont faits et transmis dans les écoles chaque matin, ces repas, eh bien, ils sont tous au même endroit dans la cuisine centrale à Olivet et qu'ils pourraient très bien faire l'objet d'un travail particulier avec un acteur de ces associations caritatives. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a quelque chose d'assez étonnant à avoir un diagnostic comme ça unilatéral et en même temps à pointer des familles, je m'en foutiste, soi-disant, des familles qui ne respecteraient pas les personnels, qui ne respecteraient pas le système scolaire, des familles qui elles-mêmes n'ont jamais été alertées de quoi que ce soit, n'ont jamais été alertées des problèmes que ça pose. Et puis, moi, ce qui me pose problème, c'est aussi qu'en filigrane, cette mesure est faite pour presque dissuader un certain nombre de familles de faire appel au service. Et quelles familles en particulier? Les familles aux revenus les plus modestes. On se raconte parfois dans les services que ceux qui posent problème, ce sont ceux qui payent, qui ne payent pas assez finalement leur cantine, parce que le prix de la cantine est calculé sur le quotient familial et donc il descend jusqu'à 0,56 centimes le repas, 0,56 euros. Et donc finalement, avec ce système de pénalité, ben, c'est un peu comme si on faisait un rattrapage de prix, c'est-à-dire que sans revenir sur le système du quotient familial, eh bien finalement, on envisage de faire payer plein pot, voire plus cher que le tarif le plus élevé, à des familles qui ne respecteraient pas les règles. Or, faut-il encore y accéder à ces règles? À la fois avoir connaissance du règlement, éventuellement le signer, ce qui n'est pas le cas jusque-là, et puis avoir accès à une plateforme numérique qui fonctionne et qui est lisible. À la fois, peut-être que on pourrait tenir compte du fait qu'à Orléans, il y a un pourcentage non négligeable de la population qui ne parle pas français, et puis on devrait tenir compte très sérieusement du fait qu'il faut une interface qui permette d'accéder à l'information, qui permette de comprendre comment on manipule cet outil.
Ce qui a été décidé hier, c'est que le maire a décidé, donc pas de sursoir à la pénalité de 5 euros, mais de vous rencontrer, enfin.
Oui.
Vous allez vous réunir apparemment aujourd'hui, là, après l'interview, pour en discuter entre vous. Mais tu as déjà une idée de ce que tu lui dirais, à part ce que tu viens de me dire?
Oui, moi, je suis... Pour moi, les choses sont déjà extrêmement claires. C'est-à-dire que pour la coordination des parents d'élèves, on ne lâchera rien sur la fin du système de pénalité financière, parce qu'il y a même une question de principe. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour que le modèle d'action publique qu'on impose aux citoyens, aux parents d'élèves, ce soit un modèle punitif automatisé avec un algorithme qui envoie des pénalités financières aux gens s'ils ont mal cliqué sur l'interface. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne lâchera pas cette question de la fin des pénalités, à moins qu'on arrive sur quelque chose de symbolique, de l'or, de 0,50 euros ou d'un euro, comme ça s'est mis en place par exemple dans les lycées, pour faire prendre conscience quand même aux lycéens qu'il faut réserver son repas, et puis à moins aussi qu'on ait un délai de carence qui devienne raisonnable, parce que le délai de carence que nous impose la ville d'Orléans, c'est une sorte de compromis à l'avantage uniquement du prestataire, la SOGRS, puisque c'est calqué sur ses délais de fabrication. Or, est-on obligé de punir les parents, ou peut-on interroger les process richesse et l'offre de services qui est offerte à la population. Moi, je crois qu'il faut réinterroger la relation avec ce prestataire qui probablement est trop gros. Moi, j'ai vendu le chiffre de 17 000 repas servis par jour dans la métropole. Il est probablement trop gros pour pouvoir s'adapter à des modifications de la fréquentation des écoles. Donc ça, on va leur dire ça. Le délai de carence est trop long. C'est aussi pour ça que la mobilisation à Orléans a été forte. C'est qu'ils ont mis tous les curseurs au maximum. Ils ont démarré avec leurs 15 euros de pénalité cumulable dans une journée, puisqu'ils pénalisaient aussi le périscolaire. Ils ont démarré avec un délai de carence ahurissant. Et donc, on va revenir là-dessus. Et puis, deuxièmement, on ne fera pas machine arrière. C'est-à-dire que la coordination des parents d'élèves, elle est faite pour longtemps. Et nous allons emboîter le pas sur d'autres questions qui ne sont pas directement liées à ces 5 euros. C'est-à-dire que ça fait déjà un certain temps que nous constatons que la mairie met en place des dispositifs pour dissuader les gens, la population, de faire appel aux services périscolaires de la ville, qu'il s'agisse du centre de loisirs où, par exemple, on doit s'inscrire dès le 4 juin et s'engager pour l'année, pour toute l'année suivante, qu'il s'agisse des périodes de vacances scolaires avec les accueils de loisirs où il faut s'engager le 15 septembre pour le 23 décembre, avec des coûts qui sont, on peut se désinscrire, mais on perd la moitié du coût de la semaine de centre de loisirs si on se désinscrit trop tard. Et à l'inverse, la mairie, elle, peut vous donner une réponse négative.